Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Canu, le 102.2, et maintenant c'est le début d'Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours Radio Canuleux 102.2 et on va débuter avec Idées Noires.
Bonsoir.
Salut.
Bonjour maintenant.
On peut dire bonjour, c'est bon, on est autorisé, merci. On va commencer vite fait par les annonces. Alors les camarades de Canu Info, on en parlait un petit peu avant, pour les 40 ans de Radio Canu. Je vous redonne vite fait les rendez-vous, donc vendredi 19 mai à 20h. Donc après-demain, un documentaire sur 2 ans de radio libre en période de lutte sociale contre la fermeture des aciéries en Lorraine. Suivi d'une bouffe, ça se passe à l'atelier des canulars. Et le samedi 20 mai, et ben du coup, il y a pas mal d'animes de la radio qui seront place Guichard de 11h à 19h. Et tout ça se finira par une soirée, voilà, avec Vice et Ralement Déviant, hip-hop, Munza, c'est Leading Punk, Cheval Hongrois du rap, Zone Infinie du punk rock, Dark Thoughts du punk et une boom à la sauce Canu. Tout ça dans un lieu secret, ben, le lieu vous l'aurez très bientôt. Autrement, il y a un mail que vous pouvez, vous pouvez envoyer vous-même un mail pour avoir le lieu. Donc ça se passe donc le vendredi et samedi. Le samedi 20 mai, si vous voulez marcher un petit peu, il y a la marche contre Monsanto. Le rendez-vous place Carnot, c'est à midi, et après il y a un départ du cortège à 14h je crois, jusqu'à place des Terreaux. On avait parlé la semaine dernière aussi, c'est le 20, donc c'est samedi à 18h30 au centre associatif Boris Vian à Vénissieux. C'est sur inscription, c'est une rencontre avec Emmanuel Mbolela, réfugié politique de la République démocratique du Congo, autour de son livre Réfugié, une odyssée africaine qui a été édité par Libertalia, livre que vous pouvez retrouver à la Plume Noire. Et dernier petit événement, ça se passera dimanche 21 mai 2017, place Satonnet, donc dans le premier arrondissement, juste en dessous de la mairie, de 14h à 18h, avec du coup la fête des régularisations passées et à venir. C'est organisé par les Chantes sans papier, c'est la chorale RESF, donc qui mêle personnes en demande de papier et personnes qui les ont. Donc voilà, on vous invite le dimanche 14h-18h, on sera a priori peut-être là avec une petite table de bouquins de la librairie, ouais. Voilà. Dans le coin également. Donc voilà pour les annonces. Et puis si vous n'écoutez pas la radio, c'est peut-être que vous êtes aussi à la Plume Noire, car ce soir il y a une projection pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie avec le documentaire Major. Je pense que vous avez encore quelques minutes pour arriver. Je pense que l'approche démarrera dans 10 minutes à peu près. Donc voilà, si vous êtes encore en bas des pentes, pressez-vous pour arriver à la Plume Noire. Du coup, je ne sais pas si on enchaînait avec.
Ouais, on peut enchaîner. Alors moi du coup je voulais juste faire un petit rappel en gros comme on avait fait pour la journée de la femme, enfin non pas la journée de la femme, excusez-moi, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et du coup c'est un peu le même principe aujourd'hui en fait, c'est que du coup c'est une journée qui est faite pour la visibilisation, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Voilà, du coup des luttes LGBT, tout ça. Donc voilà. C'est juste pour vous dire que les machos ne sont pas bienvenus avec leurs réflexions de merde sur les événements. Du coup, je vais vous lire un article de Hétéroclite qui parle de Chrysalide, du coup, une association qui milite pour les droits des personnes LGBT, notamment trans. Alors, ça s'appelle une chrysalide qui n'a rien d'éphémère. Samedi 20 mai, Chrysalide célébra ses 10 ans d'existence. Retour sur une décennie d'activité associative et militante avec Sophie Berthier, cofondatrice de l'association Trans-Lyonnaise. Depuis sa création, Chrysalide est devenue un repère incontournable, à la fois comme ressource communautaire d'autosupport et sur le terrain de la lutte pour les droits des personnes trans. Quelques chiffres donnent une idée du chemin parcouru. L'association a tenu 100 groupes d'échange et de dialogue, GED, mensuels. Une équipe de 7 bénévoles qui s'est constituée au fil des années se charge de l'accueil et de l'animation de ces GED fréquentés par une cinquantaine de personnes chaque mois, contre 2 ou 3 personnes accueillies lors de toutes les premières permanences physiques. L'association organise également une à deux fois par an des GED spécifiquement destinés aux proches, comme les parents ou les conjoints, et répond chaque semaine à de nombreux mails provenant de personnes isolées, parfois en grande détresse. L'association mène de nombreux types d'actions, formations, projections, débats, colloques, manifestations, auprès d'institutions diverses comme sur le terrain. Chrysalide a développé ses propres outils, ayant par exemple publié 8 guides pratiques depuis 2009 et une étude sur la santé des personnes trans en 2011, ou encore mis en place une plateforme sur la santé sexuelle, le tout accessible librement sur son site. D'autres pistes de travail se mettent en place actuellement, notamment en rapport avec les professionnels de santé. Si l'heure semble être à la rétrospective, cet anniversaire a lieu dans une période particulière, avec une apparente avancée amenée par la nouvelle législation autour du changement d'état civil et de prénom. Une loi à minima est floue sur ses applications concrètes, selon Sophie Berthier, cofondatrice de l'association, loin de la revendication de déjudiciarisation et de démédicalisation totale portée par les associations. Même si la récente condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'exigence de stérilisation et ou de suivi d'un traitement hormonal est un signal positif, la juridiction ne se prononce pas sur la pratique des expertises, ce qui laisse craindre une continuité des pratiques discriminatoires. Pour Sophie, les conditions de vie concrètes des personnes trans ne se sont pas réellement améliorées ces dernières années. Le contexte social est particulièrement hostile, les mouvements réactionnaires se sont recomposés, les personnes trans en sont clairement une cible directe. Certains discours qui étaient marginaux se sont imposés dans le débat public à cause de la manif pour tous. La visibilité médiatique ponctuelle n'est pas non plus un signe de progrès selon la militante. La visibilité faite par des cis... petite note, personne dont le genre ressenti correspond à celui qui lui a toujours été assigné à la naissance, pour des cis, se paye par toujours plus de marginalisation et de précarisation pour une partie importante de la communauté. Pire, la transphobie est désormais devenue un élément essentiel de la culture populaire. Les blagues lourdes sont devenues des blagues de fachos, animées par une idéologie offensive. Face à ce constat, Chrysalide est partie prenante de la première fédération française d'associations trans et intersexes, réunie pour la première fois en mars, qui marque un véritable tournant dans les luttes. Cette instance a affirmé dans un communiqué son intention de mener un travail commun à grande échelle, affirmant son autonomie par rapport à un milieu associatif LGBT, loin d'être toujours à la hauteur de son rôle d'allié. Sophie y voit le signe d'une maturité nouvelle et la prise de conscience partagée des urgences et des priorités actuelles. Une des perspectives, la mise en place d'un observatoire national des nouvelles pratiques liées au changement d'état civil, l'objectif à terme restant la libre disposition totale des personnes trans sur leur corps, leur parcours et leur vie à tous les niveaux. Pour Chrysalide, le combat continue. En attendant, rendez-vous le 20 mai pour célébrer les 10 ans de l'association en compagnie de ses militants et militantes. Au programme, groupe d'échange et de dialogue mensuel, destiné comme d'habitude aux personnes trans et en questionnement, à 16h au centre LGBT de Lyon, 19 rue des Capucins, Lyon 1. À 19h30, toujours au centre LGBT, ouverture au public avec le vernissage d'une exposition retraçant l'histoire de l'association. La soirée se poursuivra au bar Les Feuillants, 5 petites rues des Feuillants à Lyon 1, à partir de 21h avec la complicité de l'équipe de la Bonnie and Clit. Et voilà.
Donc bah, du coup, à rajouter sur votre agenda pour ce week-end. Maestro ?
Ouais, on va enchaîner sur un petit point macrotte, si je me trompe.
Macronite, ouais, les macronites aiguës, tout ça là.
Voilà, on
voulait faire un petit point. Vous avez sans doute entendu cet après-midi, ça y est, enfin, là, parce que tous les journalistes étaient à cran depuis au moins un jour et demi pour avoir la fameuse composition du gouvernement, après avoir entendu quelques heures de trop, voilà, la nomination du Premier ministre. Là, il n'en fallait plus, du coup, ils ont été à peu près à l'heure, je crois, aujourd'hui, pour annoncer la composition de tout ça. Donc, ouais, quelques noms, vite fait, puis après, on reviendra un petit peu sur ce qui va nous tomber sur la gueule.
Je crois que d'abord, on avait prévu le communiqué des relations extérieures de la CGA.
Excusez-nous, let's go.
Bon, bah du coup, c'est remoi. Alors, voilà, communiqué extérieur... communiqué des relations extérieures de la CGA, au niveau fédéral. Donc, dès maintenant, passons de la défiance à la résistance sociale. Emmanuel Macron vient d'être élu avec 66,1% des suffrages exprimés. Mais ce chiffre, qui peut paraître élevé, masque une autre réalité. Plus de 16 millions d'inscrits et d'inscrites ont refusé de donner leur légitimité aux deux candidats du deuxième tour par des votes blancs, nuls ou en s'abstenant. L'abstention a même atteint un niveau record depuis 1969, 25,38%, soit 12 millions de 12 millions de personnes. Et ce, alors que l'enjeu était de faire barrage au FN, que les médias de masse et une grosse partie de l'échiquier politique ont relayé les injonctions à voter contre Marine Le Pen. Si on ajoute à ces 16 millions les quelques 3 millions d'adultes qui ne sont pas inscrits et inscrites sur les listes électorales, les 20,7 millions de voix réunies par Macron ne pèsent pas très lourd. D'autant qu'une part de son électorat, estimée à plus de 40%, a voté sans adhérer à son projet, mais bel et bien contre Marine Le Pen. En tant qu'anti-électoraliste, nous voyons d'un bon œil la défiance accrue envers un système qui ne nous représente pas. Le refus de beaucoup de donner de la légitimité au nouveau président affaiblit de fait son statut. Mais nous savons aussi que, si on les laisse faire, les gouvernants ne s'embarrassent pas de légitimité pour mener leur projet de casse sociale. Notre position anti-électoraliste a pour corollaire la nécessité de s'investir sur le terrain social, de lutter ici et maintenant pour défendre et conquérir de nouveaux droits et d'œuvrer à un projet autogestionnaire et anticapitaliste. La défiance envers les capitalistes et les politiciens doit se concrétiser dans la pratique par des luttes sociales. Et il y a réellement urgence à le faire, car l'arrivée de Macron à la présidence, c'est l'assurance de l'amplification des politiques d'austérité, avec notamment la casse définitive du Code du travail, la mise en place des services publics, la mise à mal, pardon, des services publics, l'ubérisation de la société, le mal logement, l'aggravation des politiques sécuritaires, la poursuite des politiques anti-immigrés, la non-prise en compte des questionnements environnementaux, le renforcement du patriarcat, etc. C'est aussi, à coup sûr, continuer à fournir le terreau sur lequel prospère le Front National et plus généralement le poison raciste et xénophobe qui gagne toujours plus de têtes. Aux valeurs de concurrence entre tous et toutes, la compétitivité, le patriotisme et d'union sacrée, opposons une culture et des valeurs de classe. De Mélenchon à Le Pen, on nous bassine avec la nation, la patrie, l'intérêt général, le bien commun. Or, les capitalistes et les États qui les soutiennent n'ont pas les mêmes intérêts que nous. C'est eux contre nous. Nous contre eux, quand ils gagnent, nous perdons et inversement. Les élections maintiennent justement cette fable de l'égalité des citoyens et citoyennes dans l'isoloir, gomme et annihile les résistances de classe. Le réel enjeu, même à court terme, ne se situe donc pas dans le soutien à tel ou tel politicien lors des prochaines législatives. Il est au contraire à la préparation d'une riposte sociale de grande envergure. Pour cela, nous devons, il nous semble, renforcer les organisations de résistance de notre classe, au premier rang desquelles les organisations syndicales et les collectifs de lutte. Nous savons que cela exige des efforts et qu'il est plus facile d'attendre des promesses politiciennes de victoires faciles, mais elles ne nous conduisent qu'à l'impuissance et aux reculs sociaux. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à ne plus en être dupes. Alors organisons-nous pour mener la contre-offensive.
Donc voilà, pour ce communiqué fédéral de la CGA suite à l'élection de M. Macron. Et donc je rétropédale un petit peu, je reviens là où j'étais. Donc cet après-midi a été du coup donnée la composition du gouvernement. On cite quelques noms. On va enfin se débarrasser. Enfin, c'est peut-être un mal pour un mal.
Se débarrasser, voilà. C'est un bien grand mot. Hein.
Un mal pour un mal, voilà, puisque notre cher maire, hein, notre cher monarque de Lyon, va quitter la mairie lyonnaise, la présidence de la métropole, pour devenir premier flic de France. Voilà, au ministère de l'Intérieur. Donc ça vaut le coup quand même de verser quelques larmes, hein, lors d'une cérémonie d'investiture du président, parce que du coup voilà, on peut être nommé ministère de l'Intérieur. Donc voilà, on va surveiller ce qui se passe, mais c'est voilà, sûrement pas une bonne nouvelle vu le laboratoire qu'a été Lyon aussi au niveau des stratégies policières pour mater les manifestations.
On se rappelle de 2010 quand même notamment. Que c'est Gérard Collomb, parce que je crois que t'as pas prononcé son nom.
Ah, oh, monarque de Lyon, ouais. Ah. Le monarque. Ouais, donc GG, voilà, GG pour les intimes.
Ça dépend pour qui.
Donc voilà, GG, hein, qui va se retrouver premier flic de France. Voilà, quelques autres noms qui sont sortis. Bah, le fameux.
GG l'intestin pour les intimes.
C'est ça, ouais. Gérard Collomb. Fameux Nicolas Hulot, hein, qui, à force de retourner sa veste, a fini par entrer dans un gouvernement, donc voilà, de transition. Pour la transition écologique, c'est ça. Donc, ça va être formidable avec un Premier ministre. On y reviendra tout à l'heure, quand même, qui vient d'Areva. Le paradoxe va être assez grand, quand même. Je sais pas quel grand écart il va faire ou combien de temps il va tenir sur ce ministère-là, Nicolas Hulot. Mais bon.
Ah oui, Nicolas Hulot, l'écologiste sponsorisé par les multinationales.
Exactement. Donc, voilà, on verra bien un petit peu ce que ça donne. Puis ensuite, voilà, il y a quelques autres noms que tu avais.
On a François Bayrou aussi, qui doit être heureux voilà. D'être enfin placé quelque part.
Voilà. Enfin, un pacte qui a servi à quelque chose. Voilà,
il
son alliance
Bruno
avec
Le Maire, des Républicains. Voilà. Quelqu'un de très ouvert.
Avec, oui, tout à fait.
Et Agnès Buzyn-Pénicaud, ministre du Travail, donc, qui est patronne, qui était patronne du moins, et qui est passée par plusieurs grandes firmes aussi.
Qui est passée par Orange, par Danone, et qui faisait partie des comités centraux, enfin directifs de plusieurs multinationales.
Que,
donc c'est
que des endroits où les salariés se sentent très bien en général.
Voilà. Donc ça annonce pas mal de choses, et notamment, voilà, je voulais revenir vite fait sur ce qui avait été fait avant la présidence de Macron. On sait quand même que c'était un des conseillers le plus écouté d'Hollande, hein, donc voilà, les principales lois qui ont été mises en place de 2012 à 2017, on les doit à ce monsieur. Alors, je vais en citer que 5, et puis après, on verra ce qu'il nous prépare là pour bientôt. La généralisation du travail de nuit et le dimanche, donc ça avait fait un grand tollé, mais du coup, c'est quand même passé, avec notamment un statut intermédiaire de travail en soirée pour limiter les heures supplémentaires, enfin, en tout cas, les heures un peu plus payées. Donc voilà, le but était de faciliter le travail dominical et de nuit, mais surtout de baisser les augmentations de salaire dues au travail durant ces périodes. Alors, il y a quand même des boîtes qui avaient résisté. On pense, je crois, au FNAC, à la FNAC, je crois, sur les Champs-Élysées, qui avaient résisté.
Il n'y a pas que, oui.
Il y en avait pas mal, mais du coup, voilà, avec la loi travail notamment, voilà, il suffisait qu'une minorité syndicale accepte de signer pour que ça passe. Donc voilà. Il y avait aussi cette fameuse TVA sociale qui visait à créer une augmentation de la TVA avec une partie dite, entre guillemets, sociale, bien sûr, hein, pour compenser les baisses de cotisations sociales pour les entreprises. Donc le but, c'était faire porter le coût de la sécu, du chômage et des retraites par la consommation de tous et non plus seulement par les patrons. Donc voilà. L'ubérisation généralisée, ça, je crois qu'il n'y a pas besoin de trop... À chaque fois, les mesures qui ont été faites, ils faisaient partie, en fait, du rapport Attali, hein, qui est un peu le mentor de M. Macron. Voilà, l'ubérisation généralisée, peut-être pas la peine de revenir dessus, hein, maintenant tout le monde est au courant, puis ça se développe de plus en plus. Les fameux 40 milliards d'abaissement de cotisations sociales et donc de salaires indirects, le CICE et le TIS, donc du coup qui n'ont pas servi à créer de l'emploi et à relancer tout ça. Il y avait aussi l'augmentation du temps de travail. Voilà, c'est l'obsession un peu de Macron depuis 2010 et de la commission Attali. Voilà, en 2012, lorsqu'il est conseiller de Hollande, il pousse avec insistance pour un passage temporaire aux 37 heures par semaine. Mais il faudra attendre 2016 et la fameuse loi travail pour que le rêve de Macron commence à être mis en place. Mais c'est loin de lui suffire. Et il affirme donc que son but est de mettre en place une version beaucoup plus radicale de la loi travail. Une loi travail à la puissance 10. Hein, comme quoi, ça fait quand même envie. Et donc, on va voir un petit peu quelles vont être sûrement les premières mesures de ce nouveau président. On l'a dit depuis un moment... Oui, j'y viens après, ouais. Okay. Sur M. Philippa.
Je ne voulais pas t'arrêter.
T'inquiète, oui, bah, tu m'as arrêté. Voilà. Et puis j'en suis maintenant. Non, du coup, une des choses qui est annoncée depuis un moment, hein, c'est de supprimer pratiquement purement et simplement les pages du Code du Travail, hein, en tout cas le simplifier entre guillemets au maximum. Et ben donc pour le simplifier, il faut bien sûr supprimer de nombreuses protections au bénéfice des salariés que les patrons avaient été obligés de lâcher pour maintenir la paix sociale. Et il y a un moment de cela. Et donc le cas de Macron, il est simple. Donc il veut faire passer dès l'été à l'Assemblée un projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance visant le Code du Travail. Donc toute loi sur le Code du Travail n'aura donc pas besoin de passer par l'Assemblée. Il n'aura besoin que de l'aval de Macron pour être ratifiée. Donc voilà, il veut aussi donc commencer par plafonner les indemnités prud'homales pour les licenciements sans raison valable. Il y en a voir, c'est formidable ça. Les autres ordonnances prévues visent donc à largement donc renforcer la loi El Khomri. J'y reviens un peu plus tard, notamment sur les référendums d'entreprise qui vont encore prendre plus d'ampleur. Et ben la seconde est de permettre de supprimer un paquet de délégués syndicaux. Alors pour expliquer un petit peu, il y avait déjà la loi Rebsamen qui avait essayé de foutre le bordel là-dedans. Avant qu'on était élu, on pouvait choisir, enfin pour avoir plusieurs mandats, on pouvait cumuler les mandats. On pouvait aussi en choisir qu'un. On avait le choix généralement entre délégué du personnel, être élu au comité d'entreprise et être élu au comité d'hygiène et de sécurité, le fameux CHSCT. Et ben, ce qui s'est passé déjà avec la loi Rebsamen, c'est de tout fusionner en un seul, en fait, un seul mandat, ce qu'on appelle la délégation unique du personnel. Alors pour le moment, c'est si le patron, l'employeur propose ça. Et s'il y a des syndicats, notamment la CFDT, qui acceptent généralement ce genre de truc, s'ils sont à plus de 30%, à plus de 50%, ça peut passer. Dans certaines boîtes, ça passe pas encore parce que du coup, l'entreprise sait que du coup, généralement, les syndicats qui sont majoritaires seront contre. Mais donc là, ils veulent l'imposer pour toutes les boîtes, quelle que soit leur taille. Donc ce qui veut dire que quand vous serez élu, donc ce qui va quand même dégoûter pas mal de monde, et ça va limiter aussi les personnes qui seront investies, c'est-à-dire que quand vous serez élu, vous serez à la fois délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT. Et avec des heures délégation de merde, je crois une vingtaine, entre 20 et 25 par mois.
C'est un cumul de mandats, ça, mais c'est pas rien du tout.
Et ce qui... mais ce qui surtout limitera beaucoup les pouvoirs des organisations syndicales, parce qu'on peut pas, enfin c'est la fatigue pour ceux qui sont syndiqués, qui ont quelques mandats déjà. Là quand c'est séparé, CHSCT, délégué du personnel et comité d'entreprise, on a des heures de délégation pour chaque mandat si jamais on cumule, donc ça peut être des fois jusqu'à 40 heures par mois, ce qui peut permettre quand même de faire du bon boulot, parce qu'il y a quand même des dossiers énormes à étudier, notamment au comité d'entreprise et au CHSCT. CHSCT, il faut aller sur les boîtes, il y a souvent des enquêtes qui sont menées, des fois tu y passes la semaine, etc. Et donc là, il veut tout scinder en une seule instance, ce qui va rendre le travail presque impossible des élus et faciliter celui des patrons. Il veut aussi essayer de faire accepter d'être payé moins que le SMIC grâce donc à ces fameux référendums d'entreprise. Ils ont déjà été créés par la loi travail, hein, mais du coup, il fallait quand même un pourcentage minimum d'organisation syndicale pour faire ce référendum, c'est-à-dire 30%. Et là, ils vont encore aller un peu plus loin. Et du coup, il ne veut pas limiter ça seulement au temps de travail, mais sur tout ce qui concerne le travail. Ça peut être aussi bien le salaire, par exemple. En clair, si Macron réussit à faire passer l'ordonnance qu'il souhaite, un patron donc, pourra signer un accord avec les syndicats pour baisser les salaires en dessous du SMIC et faire bosser les travailleurs jusqu'à 48 heures par semaine. Si le syndicat n'est pas d'accord, et ben tant pis pour lui, le patron pourra toujours faire donc un référendum d'entreprise en menaçant de faire un plan social si les employés ne votent pas pour. Donc voilà l'ambiance. Et ce qu'il veut faire aussi, et ça on en a beaucoup parlé un petit peu, c'est la suppression de l'UNEDIC. Alors pour rappeler, l'UNEDIC a été créée en 1958, c'est l'Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce. C'est l'organisme qui est en charge de la gestion de l'assurance chômage. L'UNEDIC, pour l'instant, elle reste statutairement une association et elle est co-gérée de manière égale donc par des représentants d'organisations syndicales et patronales depuis les années 90. La direction alterne donc entre MEDEF et CFDT. Donc Macron lui a annoncé qu'il allait lancer une grande réforme de l'UNEDIC visant donc à supprimer ce fonctionnement paritaire. Le but étant que l'État reprenne totalement la gestion de l'assurance chômage. Il va même supprimer les cotisations chômage sur les salaires pour les remplacer par une hausse de la CSG. C'est-à-dire que là, les chômeurs, hein,
Je te coupe deux secondes juste par rapport à ta remarque, Dan, tout à l'heure. C'est pas dans sa logique le cumul des mandats. Bon, pas dans sa logique. Il a quand même, du coup, entre autres, pris Gérard Collomb, qui est un grand spécialiste avec plus de 30 mandats cumulés. Déjà à l'heure actuelle.
Et un pauvre salaire, il paraît.
Oui, il a du mal à finir ses fins de mois. C'est ça,
exactement. Et donc, en lien avec la suppression de l'UNEDIC, il y a forcément la chasse aux chômeurs, hein, ça c'est vraiment son dada, au Macron, pour qu'il touche le moins d'allocations possible. Il a même pour but de mettre tout le monde dans l'incapacité de refuser chaque boulot qui lui sera proposé. Alors, un exemple, hein, ce serait d'obliger les chômeurs à faire un bilan de compétences dès le premier mois de chômage. C'est-à-dire que tu es viré, tu veux souffler un petit peu, te reposer, récupérer ton ancien boulot. Eh bien, il n'y a pas moyen. Dans le premier mois, tu vas devoir faire un bilan de compétences, une sorte de liste de tout ce que tu sauras faire. Et si un boulot disponible correspond à une de tes compétences, le chômeur sera obligé de l'accepter. Sinon, après deux refus, on lui coupe tout moyen de survie, c'est-à-dire RSA, aide au logement, chômage, voire allocation handicapée. Par contre, si les compétences cochées dans ce petit livret ne correspondent pas à des jobs disponibles, on va vous obliger à faire une formation pour vous rendre adaptable au marché du travail. Et oui. Et là encore, si on refuse la formation, si on n'est pas assez présent en cours, les vifs seront coupés et on se retrouve à la rue. Donc tout l'enjeu est de savoir maintenant ce qu'il y aura dans ce bilan de compétences, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà pour un peu ce qui va se passer. Puis je voulais vite revenir avant de finir sur ce nouveau Premier ministre. Édouard Philippe.
Juste par rapport à tout ce que tu as dit quand même, il y a déjà eu une déclaration qui m'a fait quand même beaucoup rire de Philippe Gattaz, donc Pierre Gattaz, donc le patron du MEDEF, qui a dit que pour l'instant il se sentait comme dans un rêve de première nomination de Macron et de ses premières dispositions. Donc ça nous laisse présager le meilleur.
Tu m'étonnes. Et donc pour revenir sur ce fameux Premier ministre, alors là ils ont mis un peu de temps, pareil pour lui et pour les autres, pour vérifier un petit peu s'il n'y a pas de, comment on dit, de loup dans la personne. En gros, s'ils n'avaient pas de problème au niveau de leurs impôts, par exemple, comme c'est arrivé à d'anciens ministres, s'ils n'avaient pas de problème avec la justice, etc., etc.
Si des fois ils n'étaient pas à gauche aussi.
Parce qu'il ne fallait pas trop déconner quand même. Et par contre, du coup, c'est quand même marrant avec ce Premier ministre, c'est que ils ont.
C'est que c'est un homme déjà, parce que Macron déjà, nous avait promis.
Peut-être une femme, effectivement. Voilà. Du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'ils n'ont quand même pas tout vérifié, ou alors ils vérifient vraiment ce qu'ils veulent, ils ferment les yeux sur le reste, parce que ce monsieur, quand même, Édouard Philippe, il est quand même un peu embourbé dans un pseudo conflit d'intérêts. En tant que maire du Havre au profit de son ancien employeur qui n'est d'autre que Areva. C'est l'Observatoire nucléaire qui a sorti ce petit communiqué, qui a dénoncé donc la nomination au poste de Premier ministre de ce monsieur, qui n'est en rien le personnage donc modéré que la communication veut mettre en scène, bien au contraire. Donc ce monsieur a les mains très sales, ou plutôt radioactives. En effet, lorsqu'il travaillait pour la multinationale atomique Areva, il a participé à de sombres manœuvres dans les coulisses uranifères de la France-Afrique. J'explique vite fait le truc, c'est qu'en octobre 2007, donc Édouard Philippe a été nommé directeur de la communication et directeur des affaires publiques d'Areva. Son activité principale est alors de s'assurer de la collaboration de parlementaires acquis au lobby de l'atome. Il est ainsi en contact rapproché avec Marc Vampa, qui est député de l'Eure et président du groupe Amitié France-Niger. On sait pourquoi là-bas ils vont au Niger. C'est précisément pendant cette période, donc le 13 janvier 2008, qu'un accord a été signé entre Areva et le pouvoir du Niger concernant l'exploitation de l'uranium. Accord immédiatement contesté par le mouvement des Nigériens pour la justice, mouvement Touareg en rébellion contre le pouvoir central de Niamey. Vous imaginez bien que ça n'a rien donné pour eux malheureusement. Voilà, et par rapport à ce petit conflit d'intérêts qui peut exister quand même, bah, quand il a été à peine assis dans le fauteuil du maire du Havre, il faut dire qu'il n'a pas été élu, hein, c'est-à-dire qu'il a, en cours de mandat, l'ancien maire du Havre a donc démissionné, et comme c'était son chouchou, un petit peu entre guillemets, donc c'est lui qui a pris sa place, et bien ce Édouard Philippe donc, a offert un pont d'or, devinez à qui, quand il est devenu maire du Havre, et bien à son ancien employeur Areva, pour qu'il installe deux usines d'éoliennes offshore, projet finalement abandonné piteusement en septembre 2016. Donc voilà, on a un beau ministre très progressiste, écologiste et tout ça.
Il s'est abstenu pour le mariage pour tous, il a voté contre la loi d'égalité homme-femme au Parlement.
Il est contre la PMA.
Voilà.
Je ne sais plus s'il avait voté contre, mais pour les lois plutôt en faveur des combats féministes, tout ça, il a dit pour certaines lois, il a dit qu'il attendait la confirmation du conseil d'éthique ou je ne sais plus trop quoi. Alors, évidemment dirigé par des hommes, à mon avis. Donc, voilà.
Ouais, c'est ça.
Et juste au niveau de la parité du gouvernement, alors du coup, Macron a un peu nous a mis la posteuse devant les yeux en nous disant que du coup, le gouvernement était paritaire avec 11 femmes et 11 hommes. Qui ont été, pas élus, mais nommés. Sauf que, du coup, dans un communiqué, il y a le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui fait remarquer qu'en fait, il y a une seule femme qui occupe l'un des ministères régaliens. Du coup, c'est
le plus important, voilà.
Voilà, les ministères les plus importants. Et pour le reste, du coup, c'est que des mecs qui ont été nommés. Donc,
voilà, puis on va soigner plus le ministère de la jeunesse. Un ministère qui a été évacué, c'est celui auprès des personnes handicapées. Ça reste un secrétaire d'État, il me semble. Voilà. Donc, après, c'est une nana qui vient d'associatif, mais voilà, c'est plus un ministère non plus. Donc voilà, ce sera à surveiller. Enfin, en tout cas, on refera peut-être un point plus complet la semaine prochaine quand on aura fouillé un petit peu sur les noms qui sont sortis cet après-midi.
Ouais, du coup, on va enchaîner sur une première pause musicale. Alors, on avait prévu autre chose, mais du coup, je trouve que là, j'ai une chanson qui est plus en concordance avec le sujet. Donc on va commencer, on passera à l'autre en deuxième, avec Stupéflip et la chanson Argent.
Abus d'autorité.
Ouais.
Ça pose un souci ?
Ah non, pas.
Non, c'est toi qui appuie sur les boutons, tu fais ce que tu veux, mais là t'as l'air un peu de merder quand même.
Argent, mon ami, tu n'es pas très fidèle. Et tu n'es pas souvent là quand j'ai vraiment besoin de toi. Mais où es-tu, argent, quand mon frigo fait pipi? Mon ami le RMI. Change d'horaire avec ta couleur bizarre. Sans que j'ai à faire le canard. Regarde-moi, je ne suis pas transparent. Et prends un air intelligent. Argent.
à toutes et à tous sur Radio Canu. C'est toujours le 102.2 avec Idée Noire. Alors excusez-nous, il y a une bande de zouaves qui vient de rentrer nous déranger à la radio. Là, on va faire ce qu'on peut hein, pour rester concentré.
Oui, mais
on va
lancer la première amis, partie. C'est des amis, hein, c'est pas. ce sont des camarades quand même. C'est pas des. Nos bêtes. Nos amis. Ouais, c'est à moi peut-être.
Première place de lutte.
C'est à vous. Bien qu'on me lance.
C'est ce que j'ai dit. J'ai dit on va
nous
lancer la première
nous
partie de lutte.
Alors je suis sourd. Je vais faire un petit récapitulatif là de ce qui se passe en ce moment. Deux grosses luttes. Enfin, y a, toutes les luttes sont des grosses. Sont des grosses luttes. Mais on en parle souvent en ce moment, c'est Total à Fezzin, donc la raffinerie. Hein, c'était 11 mai. Je suis désolé, j'ai pas pu avoir d'autres informations plus récente, c'est bizarre. Donc pour faire le point, cette date, la grève a été reconduite pour une semaine, donc jusqu'à demain, 18 mai, par les salariés et grévistes et le syndicat majoritaire qui est EFO. Donc les revendications, elles ont été un petit peu améliorées. À chaque fois qu'on retrouve des informations, il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Mis à part, donc, bien sûr, les salaires qui sont en question, toujours, il y a eu une prime à 1000 euros qui a été exigée. Alors il y a aussi ce problème avec la hiérarchie qu'on retrouve souvent dans les luttes en ce moment. Ils exigent même, limite, le départ de deux dirigeants du site, donc c'est quand même assez grave. En plus donc des revendications classiques, je dirais, donc les conditions de travail surtout, et puisque le 3x8 est de coutume donc chez Total à Fezzin, à la raffinerie. L'effectif faible aussi est dénoncé à un point que la direction rappelle des salariés en congé pour venir faire le taf. Et je rappelle que c'est un rappel de EFO d'ailleurs, c'est pas le mien, c'est que le site est classé Céveso 2. Donc il ne s'agit pas de rigoler avec la sécurité quand même, il ne s'agit pas de flamber parce qu'il y a tout un tas d'habitations aux alentours.
Juste, Céveso c'est quoi ?
Céveso 2, c'est le fameux accident qu'il y avait eu en Italie à Céveso, qui avait intoxiqué, tué, empoisonné je ne sais combien de centaines de personnes. Okay. Donc depuis, il y a eu des directives qui ont été prises de sécurité sur les sites où on manie des saloperies chimiques, pétrolières, pardon. Il y a eu Céveso 1, puis ensuite Céveso 2, vu le niveau de sécurité à appliquer sur les sites en question. Donc il faut du monde, et du monde qui est formé à ça, donc s'il n'y a pas l'effectif, effectivement, ça peut poser des problèmes. Pour finir sur ce point, c'est à noter aussi, c'est ce que le syndicat quand même note et indique dans les interviews, c'est que depuis 2 mois, ils se sont mis à faire des propositions de discussion avec la direction qui sont restées sans réponse, donc il fallait bien s'attendre quand même à cette grève qui n'est pas du tout étonnante, et qui dure, donc je le dis, jusqu'à demain, 18h. L'autre point aussi grave et sérieux, comme toutes les luttes d'ailleurs, c'est GM et S à la souterraine, donc dans la Creuse. Alors je dirais dans la Creuse et tais-toi, puisque ça s'adresse quand même aux 277 travailleurs de cette entreprise. Je rappelle que quand même sur Idée Noire, on avait un petit peu, on avait devancé un peu quand même l'événement, puisque j'en avais parlé déjà le 1er février et le 8 février, donc où le mouvement a démarré sérieux. Alors pour rappeler simplement sur cette affaire qu'il y a deux donneurs d'ordre qui travaillent avec GM et S, c'est un équipementier pour l'automobile, c'est PSA et Renault, et qui ne font pas dans le social mais plutôt dans le commercial évidemment, donc pas de cadeau. Devant la mobilisation cependant depuis le 11 mai pour cette occupation du site de l'usine, vous l'avez entendu je suppose dans les informations, eh bien c'est des menaces de destruction du site avec ces bouteilles de gaz qui pendouillent sur des bonbonnes, c'est pas des silos mais enfin c'est des réserves d'air liquide, ça peut faire du mal. Donc les deux Maus en question, donc PSA et Renault, ont eu un petit geste, mais certainement pas à la hauteur selon les grévistes, les ouvriers grévistes, qui pour niquer donc la liquidation, je dirais, pour employer un peu leur langage aussi là-dedans. Alors faut pas se faire de bile pour PSA et Renault. Les deux sociétés ont dû déjà trouver ailleurs des usiniers. Ce qu'on appelle les usiniers, ce sont les gens évidemment qui sont les patrons des sociétés qui exploitent les ouvriers. Ça ne manque pas donc sur la planète. Alors, il y a eu aussi, on peut appeler ça une avancée, mais ça m'écorche un peu la bouche, de parler d'une période d'observation accordée par la Nouvelle-Aquitaine, donc la région en Nouvelle-Aquitaine, hein, une période d'observation de 15 jours, ça se voit aussi assez régulièrement. Donc un supplice de plus pour ceux et celles qui sont déjà au goutte à goutte dans cette entreprise, hein, je veux dire les employés, les salariés. Alors des soutiens aussi, on peut en parler, puisqu'il y a eu quand même un soutien assez sérieux, hein, pour les grévistes, puisque les commerces déjà ont fermé leurs boutiques le 16 mai. Également, ce jour-là, il y a eu une manifestation qui a amené 1200 personnes donc à la souterraine. Alors, des paroles de singes aussi, il y en a, notamment du chef dont on a nommé tout à l'heure Pierre Gattaz, qui nous a sorti, je le cite, hein, un environnement social, fiscal, trop compliqué. Hop, c'est bâclé. C'est terminé. Alors, voilà, donc, je te dirais que de ne pas t'en faire, hein, Gattaz, puisque ton Macron est là, tes amis reviendront, tes ennuis s'en iront, et poil au menton, si j'ose dire, vous voyez de qui je veux parler, quoi. Du Premier ministre, évidemment. Donc, à Lyon, maintenant, avec une grève, c'était le jeudi 4 mai. Oui, parce que ce sont les luttes de mai, hein, que je suis en train de vous donner là, donc c'est un peu à la va comme je te pousse. Donc le jeudi 4 mai, des personnels et agents de la ville, donc à Lyon, qui étaient en grève, cela concernait toutes sortes de services pour mettre en évidence les conditions de travail dégradées. Le 5 mai, une soixantaine d'établissements publics étaient fermés, je ne sais pas si on s'en est aperçu à Lyon. La grève a été drivée par l'intersyndicale, donc une intersyndicale de poids, je dirais. Et la ville n'a rien amené de plus, mais reste, je cite également, là, reste ouverte au dialogue. Donc on peut dire que c'est royal. À Folchwiller, c'est en Moselle, et là c'est une suite avec l'usine Neuhauser. Alors c'est dans la boulange industrielle, hein, avec un rassemblement le 5 mai à l'usine même, avec un PSE pour la fin mai quand même qui les attend, avec 200 à la clé, 259 suppressions d'emplois sur 750 et sur trois sites. Alors depuis l'annonce, ben c'est la mobilisation sur mobilisation des salariés. Tactique patronale, il faut en parler, c'est de tenter la division entre les trois sites. Donc retactique de la direction, c'est d'arriver à une recomposition des sites. Alors les jeunes sur celui qui sera le plus rentable, et les anciens, bah, vous avez compris la manœuvre, c'est-à-dire si vous n'avez pas compris, en fait, bah, Macron, lui, il a tout compris, les patrons, eux, ont tout compris également, et ils nous ont tout compris pour vous et pour nous, quoi, en fait, hein, finalement. Donc les revendications, là, apparemment, sont non chiffrées, mais dignes, ils exigent à être dignes face aux propositions patronales. Neuhauser, bah, c'est la famille Soufflet qui pèse quand même 600 millions d'euros. Et le PSE a été chiffré, lui, à 16 millions d'euros. Vous voyez ce que ça peut donner pour 259 personnes qui se retrouveront à Pôle emploi. Et à Bénissieux, maintenant, c'était au 10 mai, avec la société Avadel Research, c'est de l'anglais. C'est un laboratoire pharmaceutique, avec une grève des débrayages par une majorité des salariés. Il y a ici 47 suppressions d'emplois pour 101 postes. Une bonne entreprise comme on les connaît aujourd'hui, c'est l'ex-société Flamel, après fusion, acquisition, et qui est devenue une grande fille du groupe Avadel, donc, et de ses actionnaires toujours plus gourmands. 52,5 millions en dollars, hein, de bénéf au premier trimestre 2007. Le siège social est en Irlande et les salariés trinquent pour assurer, bien sûr, la compétitivité. Et la compète, eh ben, c'est Macron en short. Trappe, dans le 78, il y a un technicentre de la SNCF à Trappe, avec 300 cheminots et cheminotes, donc des suppressions de postes également, avec des conditions de travail également dégueulasses. En début mai, ben, y a une grève des équipes pour arrêter le massacre et exiger des embauches. Et à Gien, pour finir cette première page, dans le Loiret, ben c'est une faïencerie, et la faïencerie de Gien d'ailleurs, qui le 11 mai était en grève, deux heures de grève pour les ouvriers et ouvrières qui dénoncent les très bas salaires et le non-respect des conventions collectives. Le SMIC, après 30 ans de présence, la direction propose du rafistolage comme intégrer la prime de fin d'année au salaire, et à condition évidemment de faire des bénéfices, ça va de soi. Un comble d'économie, et puisque les salariés ici sont obligés d'amener leur PQ, leur papier de toilette. Voilà, on aura presque tout vu, mais c'est pas terminé. Il y aura une deuxième page, si je peux.
Ouais, je suis pas sûr qu'on aura le temps. Mais
Déjà, je pense qu'on peut zapper la musique. Non, c'était pas tout de suite.
On peut
enchaîner du coup sur les petits articles internationaux.
C'est ça, sur le point nouvelle de l'autre côté de l'Atlantique.
Voilà, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, récemment a eu lieu la première rencontre entre Trump et Erdogan. Donc l'entretien entre les deux dirigeants s'est déroulé une semaine après l'annonce par Washington de la livraison prochaine d'armes aux milices kurdes syriennes yépégées. Lors d'un référendum en avril qui lui permet d'élargir ses pouvoirs, Erdogan est arrivé à la Maison Blanche avec une liste de doléances. Du soutien américain aux milices kurdes syriennes yépégées jusqu'au cas du prédicateur musulman Fethullah Gulen qui vit aux États-Unis, dont Ankara réclame l'extradition pour son implication supposée dans le coup d'État avorté en juillet. Mais les deux dirigeants, dont les pays sont des alliés historiques au sein de l'OTAN, ont cherché à faire une bonne figure, promettant de renforcer leur partenariat stratégique et leur relation exceptionnelle. Donald Trump fut l'un des premiers à féliciter son homologue turc pour sa courte victoire au référendum le 16 avril, et Erdogan lui rendit l'appareil en saluant la victoire légendaire du milliardaire américain le 8 novembre. Bien entendu, la victoire de M. Trump a réveillé des nouvelles attentes pour la Turquie et la région. Nous savons que la nouvelle administration ne laissera pas planer de vains espoirs, a insisté le président turc. Mais cette première rencontre survient au moment délicat dans les relations américano-turques, qui sont déjà beaucoup crispées dans les deux dernières années de la présidence Obama. Il y a une semaine, Washington a provoqué l'ire d'Ankara en annonçant la livraison prochaine d'armes aux milices kurdes syriennes yépégées. Les États-Unis considèrent la coalition arabo-turque des forces démocratiques syriennes, donc des FDS, dont les YPG sont le fer de lance, comme leurs alliés les plus efficaces en Syrie contre les djihadistes du groupe État islamiste. Le président Erdogan avait exhorté l'administration de Trump de revenir sans délai sur sa décision. Prendre en considération les milices turques YPG, PYD, dans la région ne sera jamais accepté et violerait l'accord global que nous avons conclu, a averti le chef de l'État turc aux côtés du président américain. La Turquie estime en effet que ces milices sont le prolongement en Syrie du Parti Travailleur du Kurdistan, donc le PKK, une organisation séparatiste qui livre une lutte armée contre l'État turc depuis 1984. Elle redoute que ces armes ne puissent un jour finir par être utilisées contre elle par les Kurdes. Erdogan ne décolère pas non plus contre son allié américain au sujet de l'extradition du prédicateur Gulen qui vit en exil en Pennsylvanie. Ankara impute à M. Gulen la responsabilité de la tentative de coup d'État de la nuit du 15 au 16 juillet 2016 par une fraction de l'armée qui a fait presque 2250 morts. Devant son hôte américain, le président turc a affirmé qu'il avait franchement communiqué ses attentes concernant l'organisation terroriste Fethullah Gulen. D'ailleurs, on a assisté à une émanation de conflits kurdes sur le sol américain, donc mardi 16 mai dans la soirée, alors que le président Erdogan se rendait à la présidence de l'ambassadeur turc à Washington. De très violents affrontements ont éclaté entre partisans du président et militants turcs. Les gardes du corps de Erdogan semblent avoir attaqué des manifestants qui brandissaient des drapeaux de milices kurdes syriennes. Les protagonistes des deux abords s'accusent d'avoir attaqué les premiers. Deux personnes ont été arrêtées et 9 blessées.
Du coup, c'est pas semble, hein, parce que sur les images, du coup, il y a des vidéos, on voit très bien, du coup, les flics qui laissent faire et les gardes du corps d'Erdogan qui s'acharnent sur les quelques manifestants kurdes qu'il y avait en face.
Voilà. Donc, aussi, toujours de l'autre côté de l'Atlantique, toujours avec Trump. Donc, pendant que tout le monde a les yeux tournés vers la Russie et la Tchétchénie en particulier. Trump fait bien pire. En janvier, l'une des premières actions de Donald Trump fut de réinstaurer le Global Gag Rules, une mesure prise sous la prédiction de Reagan. Ainsi appelé le Mexico City Police, l'interdisait que des fonds américains soient alloués aux ONG qui fournissent des services d'avortement légal ou simplement des informations en matière de santé sexuelle et reproductive. Cette mesure concernait 600 millions de dollars sur le budget environ total de 10 milliards alloués aux humanitaires par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Sur son nouveau programme, Protecting Life, Donald Trump étend la restriction. 8,8 milliards de dollars seront concernés, soit environ 80% du budget total. Tant qu'à faire, il étend aussi la restriction à certains budgets du ministère de la Défense et de l'État. La situation n'était pas idyllique sous la présidence de Barack Obama. Les fonds ne pouvaient en effet pas servir à financer directement l'avortement, mais ils pouvaient servir à toute autre action, prévention, planning familial. D'une ONG, même si celle-ci fournit par ailleurs des services d'interruption volontaire de grossesse. Comme l'a souligné The Independent, Trump rétablit ce que Obama a aboli. Et la situation sera encore pire lorsque Reagan et George W. Bush étaient au pouvoir. Ça appelle protéger la vie sous Donald Trump. Comble de l'ironie, en répondant aux questions des journalistes à la suite de l'annonce, l'administration américaine a tenu à préciser que les États-Unis sont le plus gros donateur en matière de programmes de santé internationale. Cette mesure n'affectera pas l'engagement du pays dans ce domaine. Nous resterons engagés pour aider les femmes et les enfants à s'épanouir. Sur 42 millions d'avortements pratiqués dans le monde chaque année, la moitié le sont dans des conditions qui mettent en danger les femmes. En demandant aux ONG de choisir entre les subventions et leur droit d'informer ou de pratiquer l'avortement, la seule chose que l'administration Trump risque de voir s'épanouir, c'est la moralité liée à l'IVG. Alors comment expliquer gentiment à l'administration américaine que l'épanouissement de millions de femmes et d'enfants dans les pays sous-développés et en développement dépend en partie des fonds alloués aux ONG qui agissent sur le terrain ? Christina Cotterucci l'explique bien. Il est presque impossible de distinguer le travail fourni en matière de santé reproductive et de planning familial d'autres services de santé vitaux pour les patients qui en ont le besoin. Parmi ces services vitaux, lutte contre la sous-nutrition, la prévention du sida, la lutte contre les mortalités infantiles, le virus Zika, etc. Ce qui s'appelle « Protéger la vie sous Trump », conclut Christina Cotterucci, Trump a nommé son programme « Protecting Life in Global Health Assistance », PLGHA, soit le son que vous ferez quand vous aurez saisi l'ampleur de la cruauté qui réside dans cette disposition.
Belle conclusion. Du coup, on passe à quoi après, monsieur Le Fil ?
Communiqué sur la création du CAF.
Oui, donc du coup c'est à moi, j'avais oublié, je suis désolée. Alors oui, du coup c'est un collectif d'autodéfense et d'action féministe qui vient de se créer sur Lyon il y a à peine un mois. Et alors du coup c'est un collectif non mixte. Donc du coup je vais vous lire le texte de présentation, ça vous éclairera. Face à nos agresseurs, autodéfense et action féministe. Nous sommes des meufs, militantes ou non, organisées ou non, de différents milieux et horizons politiques, et nous nous sommes retrouvées face à une nécessité, celle de s'organiser face à nos agresseurs. Nous partageons le même constat. Au quotidien, nous subissons le patriarcat dans des formes diverses, mais toujours avec violence. Ces agressions, bien souvent, se produisent au sein même de nos milieux, dans notre propre entourage, notre famille, nos amis, nos conjoints. La dénonciation n'en est alors que plus difficile. La plupart d'entre nous est alors confrontée au silence, à la minimisation de la violence subie, voire à l'exclusion. Dans ces situations, même quand l'exclusion n'est pas directe, c'est nous qui sommes obligés de nous isoler par nécessité de ne pas nous trouver confrontés à un agresseur de notre entourage pour nous protéger. Cela ne peut plus durer. Face à ces processus de solidarité masculine, nous n'avons pas d'autre choix que d'organiser la solidarité entre femmes. Et c'est la sororité. Nous créons aujourd'hui un espace collectif de discussion, d'autodéfense et d'action en non-mixité avec toutes celles qui sont concernées par l'expérience subie du patriarcat pour partager nos expériences, se défendre face à ceux qui nous agressent. Ce collectif se veut être un véritable outil pour développer la solidarité entre nous, se défaire des rivalités que le patriarcat lui-même nous impose. Nous invitons toutes celles qui subissent ces situations à nous contacter pour trouver ensemble la force de les combattre. Nous ne croyons pas aux solutions toutes faites en matière de réaction à ces violences. Les juges, les flics, les psys ne sont pas toujours les interlocuteurs, que nous voulons pour nous défendre et agir. Même si nous n'excluons pas ce genre de recours, nous souhaitons également développer d'autres types de réponses en fonction du souhait de celles qui ont subi ou subissent ces violences. Tous les moyens d'action peuvent être envisagés et nous voulons collectivement apporter une solidarité effective à toutes celles qui le souhaitent. Nous décidons et assumons collectivement de nos moyens d'action. Nous ne voulons plus subir, nous ne voulons plus être les victimes de ce patriarcat qui nous écrase. Nous voulons nous libérer par nous-mêmes. pour se réapproprier nos corps, nos lieux de vie, nos luttes. La solidarité est notre arme, pardon. Face au patriarcat et à ses agents, organisons-nous. Donc voilà, du coup, c'était la petite présentation. Alors, à partir du 3 juin, il va y avoir des permanences tous les 3 du mois. C'est à l'actuel local de l'UPC, ça s'appelle Jusqu'ici, il me semble. Et c'est dans la grande rue de la Guillotière. Alors là, j'ai pas l'adresse, mais de toute façon, il y a la page de présentation qui est sur Rébellion. Donc vous pouvez retrouver le texte. Alors il faut descendre un petit peu, parce que c'est passé il y a un moment en une. Mais voilà, du coup, vous trouverez l'adresse du local. Vous pouvez écrire à l'adresse mail qui s'appelle collectif.autodéfense.action.féministe@protonmail.com. Donc pareil, vous la retrouverez sur l'article Rébellion si nécessaire, vu que là j'imagine que vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter. Et sinon, du coup, il y a eu le premier communiqué qui est sorti en même temps que le texte de présentation, qui est une lettre ouverte à B, militant lyonnais coupable de viol et d'agression sexuelle. Donc c'est à partir de là un petit peu que s'est créé le collectif. C'était du coup un gars qui était militant et qu'on a dégagé du milieu parce que c'était un gros con. Violent. Donc voilà.
Ouais, je vais enchaîner sur un communiqué du FRAP, donc le Front Antipatriarcal de la CGA RP, région parisienne. Lors de la manifestation du 1er mai, un homme violent que nous avions exclu de notre groupe et donc de notre organisation, la coordination des groupes anarchistes, région parisienne, suite à notre connaissance de violence qu'il a exercée envers des femmes, était là, à la manifestation libertaire du matin et à celle de l'après-midi. Alors que nous l'avions déjà exclu le matin de la manifestation libertaire, il est revenu à la manifestation syndicale. En fin de manifestation, sur la place de la Nation, nous avons pu enfin le repérer et le dégager. Nous étions une trentaine, anarcha-féministes et sympathisantes du FRAP, ainsi que des camarades féministes à le sortir physiquement de la place sous les cris de « Hommes violents dégage, pas d'agresseurs dans nos manifs ». Lors de son exclusion, nous avions prévenu différentes organisations pour ne pas que cet homme réintègre une autre, et nous demandions de l'exclure des espaces de lutte. En tant qu'anarchiste, mettant en avant les luttes féministes dans notre groupe, ayant également un front de lutte antipatriarcale non mixte autonome, le FRAP, la présence d'hommes violents, quelles que soient les violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, est inadmissible dans nos espaces de lutte, que ce soit dans les organisations, collectifs ou dans la rue. Nous encourageons dans chaque organisation, chaque collectif, la création d'espaces non mixtes afin de permettre de mettre à jour les violences que nos sœurs de lutte subissent. Car si nous avons pu à maintes reprises être au courant de pratiques violentes de certains anciens camarades à l'égard de nos sœurs de lutte, c'est grâce aux frappes. Mettre à jour et agir selon les demandes des concernés, en plus de leurs exclusions qui est la base. Nous ne pouvons pas lutter avec des hommes violents, cela irait contre nos principes. De plus, nous devons veiller à la sécurité ainsi que la sérénité de nos sœurs de lutte. La stratégie de l'homme violent est toujours la même. En premier lieu, le déni. Il disparaît pendant quelques temps et réapparaît. Il manipule. Il fait croire aux autres en un malentendu. Le 19 mars dernier, à la marche pour la justice et la dignité, un violeur était là, en toute impunité, à une marche pour la dignité. Soit ces hommes sont dans le déni, soit ils n'ont aucun scrupule à se pointer dans des espaces qu'ils salissent. Chaque fois, nous les avons dégagés. Évidemment, il est difficile de les reconnaître dans la foule. Évidemment, toutes et tous ne sont pas au courant. C'est la raison pour laquelle nous continuerons de les dénoncer et de les dégager. Nous appelons toutes les organisations et collectifs à faire de même lorsqu'ils sont au courant de la présence d'hommes violents en leur sein. Auquel cas, nous vous encourageons à nous faire appel. Car un homme violent qui reste, ça veut dire que la sœur qui a subi ces violences s'exclut de la lutte. Ça veut dire qu'elle ne peut être sereine. Ça veut dire qu'elle ne peut plus compter sur ses camarades. Ça veut dire que pour elle, la lutte n'a plus de sens et ça veut aussi dire que cet homme peut recommencer avec d'autres femmes. Si tu tapes sur l'une d'entre nous, tu tapes sur toutes. Notre rôle au frappe, c'est aussi ça, c'est concret, car déjà beaucoup de nos sœurs ont trop souffert et nous ne tolérerons plus jamais ça. Plus que jamais, nous continuerons d'organiser des stages d'autodéfense collectif. Une nécessité vitale et politique pour toutes qui nous libère et nous fait sentir notre force et notre solidarité. On n'oublie pas, on ne pardonne pas. Voilà.
Donc voilà pour ce communiqué du FRAP, donc le Front Antipat, de nos camarades de la région parisienne.
Ouais, j'enchaîne juste très rapidement petite info qui s'est passée en Sicile, où des militants identitaires, donc de la branche Génération Identitaire au niveau européen, ont tenté en fait d'empêcher un navire d'une ONG d'aller sauver des migrantes et des migrants qui étaient en péril proche des côtes libyennes. Donc c'était des militants qui venaient de plusieurs pays d'Europe et qui ont tenté une action en fait pour empêcher le bateau de partir et l'empêcher d'aller sauver un navire en péril.
Encore un petit coup de com' voilà, pour faire parler d'eux, parce que je suis pas sûr qu'ils aient bien réussi à faire grand chose ensuite sur ce petit bateau, voilà, juste mais à déployer leur drapeau de merde.
Un petit coup de com' qui t'a risqué la vie de plusieurs centaines de personnes.
Ouais, oui, mais du coup, voilà, ils sont très forts là-dessus, voilà, pour une pseudo-action pour faire parler d'eux. Puisque tu parlais un peu des migrants et des migrantes, je vais vous lire un tout petit communiqué, parce qu'il nous reste que 5 minutes. C'est le collectif du coup de soutien aux migrantes et aux migrants de la vallée de la Roya, avec la pression qui monte encore là-bas. On avait parlé un petit peu avec cette frontière qui est fermée, hein.
On a parlé souvent,
armée, gendarmes, garde républicaine mobile, police aux frontières, douane. Les habitants et habitantes sont contrôlés systématiquement. Les migrantes et migrantes sont pourchassés, traqués, frappés. Nassara, Mohamed sont arrivés, donc c'était le 13 mai 2017, en boitant, le visage grave, les mains tremblantes. Ils ont été battus à coups de matraque par les militaires de la force Sentinelle, donc le matin même à 7h, laissés à terre sur la voie ferrée.
Il y a beaucoup de cas de torture, hein, de toute façon, qui ont été déjà dénoncés.
Les militaires sont acharnés sur ces deux personnes. Des femmes enceintes perdues, violées sont, donc c'est Cédric Hiroux qui parle, hein, sur son terrain là. Ils sont chez moi, des enfants qui attendent depuis 2 mois que l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes les prenne en charge. Ici pas le droit de sortir dans la rue, ici pas le droit d'aller chez le médecin sous risque d'être reconnu en Italie avec des médecins forcément complices. Donc il y a à peu près 50 personnes qui arrivent chez lui par semaine. La frontière est inefficace, blesse des gens, fragilise le commerce en Roya. Et qui paye cette répression policière? Combien de millions sont dépensés pour un résultat nul? Combien de personnes arrêtées? Aucun. Le ridicule ne tue pas, sauf en Roya. Donc ça, c'était du coup le collectif de la vallée de la Roya. Puisqu'on parle du coup des personnes migrantes et migrantes, je voulais juste faire un petit truc. Donc c'est un article que je vous conseille d'aller lire plus longuement, qui a été écrit par le collectif des travailleurs sans papiers de Vitry, sur l'exploitation du coup des travailleurs sans papiers. Il y avait aussi un appel à manifestation, et donc le texte, le titre du texte, c'est « Pourquoi les patrons embauchent-ils les travailleurs sans titre de séjour ?» Parce que ça surprend toujours des personnes quand on leur dit que des personnes sans papiers travaillent. Il y a plusieurs raisons à cela, hein. Puis vous lirez du coup l'article pour le détailler un peu plus. Il y a pour réduire considérablement le salaire. C'est le cas le plus courant, hein, voilà, au moins tu les payes un peu comme tu veux, un peu au lance-pierre. Afin de dissimuler les heures à l'URSSAF. Parce qu'une façon de faire est de ne déclarer qu'une partie des heures, une feuille de paye délivrée tous les 3 mois à 30 heures déclarées, et peut cacher en réalité un emploi à plein temps depuis des années. Donc les sommes qui sont versées correspondent à un salaire réel, mais dans ce cas, l'employeur escroque donc les caisses de solidarité. Pour intensifier le travail, par exemple, donc quand on t'embauche pour 3 heures, enfin une personne sans papier, au bout d'un moment, on lui demande de faire ce qu'elle fait en 3 heures, en 2 heures, et puis si elle veut pas, elle dégage. Afin de réduire les dépenses de sécurité, elle impose beaucoup tous les travaux qu'il y a autour de l'amiante, parce que réglementation oblige, la zone amiantée doit alors être confinée, les ouvriers intervenants équipés, voilà, sauf que ça coûte très très cher. Du coup, on embauche des personnes sans papier pour pouvoir licencier le travailleur plus tard. Alors avec un exemple, hein, janvier 2016, monsieur Sukuna, qui travaillait comme plongeur intérimaire pour la société Eures, qui gère le restaurant inter-entreprise du Green Office de Reuil, il est embauché sur une autre identité. Le gérant d'Eures, satisfait de son travail, l'embauche sous une troisième identité. Il était donc parfaitement au courant de la situation irrégulière de ce monsieur. Néanmoins, 10 mois plus tard, il le signale comme travailleur sans titre auprès de sa responsable des RH. Donc monsieur Sukuna est convoqué pour un entretien préalable. Il est licencié plus tard. Eures s'était rendu compte qu'il avait besoin de lui pour les fêtes de fin d'année. Donc ils l'ont licencié après les fêtes de fin d'année parce qu'ils avaient encore besoin de lui. Donc là il y avait eu un appel à manif de ce collectif des travailleurs sans papier. Allez lire complètement, c'est assez intéressant, voilà, parce que ça donne aussi quelques arguments. Et puis pour finir, je vous conseille un autre texte qui est publié aujourd'hui là sur Rebellion. C'est un appel depuis le Venezuela aux anarchistes d'Amérique latine et du monde. La solidarité beaucoup plus qu'une parole écrite. Alors le texte il est un petit peu long, donc je vais pas vous le lire, mais ça a été écrit par un groupe qui s'appelle El Libertario. Enfin, je vous conseille de lire parce que ça parle un petit peu de ce qui se passe en ce moment au Venezuela. On entend pas mal parler, hein, dans la presse un petit peu, avec Maduro au pouvoir qui utilise du coup, qui mate les manifestations et qui les tue. Mais du coup, on a l'impression, comme dit, qu'on a le choix entre deux choses, soutenir ce successeur de Chavez ou soutenir l'opposition, mais qui est aussi corrompu que lui. Donc du coup, voilà, c'est une troisième parole, notamment sur la La parole anarchiste au Venezuela, donc je vous conseille de le lire. Voilà, puis il y a des choses qui se passent en solidarité, ça peut être pas mal. Et puis deux petites brèves pour finir, parce que quand Monsieur Ménard s'ennuie, bah vous devinez ce qu'il fait, bah il fait des trucs de merde qui ne servent à rien. Et là, son nouveau dada, on en avait parlé un petit peu une fois, mais ça y est, là, il a réussi à le passer a priori. C'était le fameux fichage des chiens, voilà, hein, relever l'ADN des chiens pour qu'ils puissent être identifiables pour lutter contre les déjections et les morsures. C'est assez formidable. C'est il est complètement tapé, ce gars.
Et il sait analyser la merde, lui.
Oui, tout à fait. Ouais, ça a été très très fort, parce qu'au départ, du coup, le tribunal administratif de Montpellier avait au départ refusé ce truc-là, et du coup là ça a été validé définitivement, a priori l'identification donc par l'ADN des chiens de Béziers par la police municipale. Voilà, donc c'est assez énorme, voilà, il s'emmerde un peu, hein. Donc voilà, donc c'était juste pour finir là-dessus, pour un truc de merde, pour un merde de merde, d'un parti de merde.
La chute là, elle est...
Donc voilà, hein, je voulais juste finir là-dessus. Voilà.
On peut continuer.
Non, mais vas-y, hein, amuse-toi.
On peut tout lire à ce micro, il n'y a pas de problème.
Donc voilà, pour finir et avant de vous laisser avec la lumière du frigo, on vous rappelle les permanences de la librairie au 8 rue Diderot, les permanences de la librairie La Plume Noire. De 15h à 19h les samedis, de 17h à 19h les mercredis, les cours de langue pour les migrantes et migrants toujours les lundis à partir de 18h30. On vous rappelle aussi l'agenda vite fait, il y a les 40 ans de Radio Canu, c'est vendredi et samedi. Il y a dimanche 21 mai de 14h à 18h place Sato, la fête des régularisations passées et à venir organisées par la chorale des chants de sans-papiers de RESF.
Il y aura pas à la plume le 20 mai du coup ?
Non.
Non, d'accord.
Dommage, vous avez raté votre scoop, je suis désolé.
J'ai voulu tenter ma chance.
Mais c'est pas grave. Autre chose à rajouter ou c'est tout bon ?
C'est tout bon. Hein, je crois. De toute façon, il est 21h01, on va laisser notre place et envoyer le générique peut-être.
C'est parti.
Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Ouais. Merci de nous avoir écoutés.
Salut, à mercredi.
Ciao.